Bonjour, nous sommes sur Radio Grand Ciel et aujourd'hui je reçois le père Daniel Doré qui est venu à Dreux faire une conférence sur la miséricorde dans l'Ancien Testament. Mais en dehors de cet aspect d'une conférence à Dreux, je vais lui demander de se présenter et de nous dire aussi pourquoi il s'est intéressé surtout à l'Ancien Testament. Alors, d'abord, qui vous êtes ?
Alors donc, je suis prêtre depuis bientôt 39 ans. Et depuis 1982, c'est vrai que mon travail principal a été l'enseignement de l'Écriture sainte, aussi bien Nouveau que Ancien Testament. Mais les programmations des maisons dans lesquelles j'enseignais fait que j'ai surtout travaillé et enseigné l'Ancien Testament. Donc le Pentateuque, les prophètes et puis les écrits de sagesse. Alors pendant une bonne dizaine d'années, j'ai eu l'occasion justement de travailler un peu plus et d'arriver à une vision à peu près d'ensemble de l'Ancien Testament.
En tout cas de ces livres-là. Et vous enseignez donc au séminaire d'Issy-les-Moulineaux.
Alors j'enseigne au séminaire Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux. Actuellement j'enseigne les prophètes pour les commençants, l'hébreu biblique, donc, qui est un cours à option malheureusement. Et puis,
difficile ça non ? Ardu ?
Non. L'hébreu est une langue très facile, c'est une langue pauvre, donc, et c'est une merveilleuse porte d'entrée dans l'univers de la Bible.
C'est nécessaire pour étudier la Bible ? Pour comprendre des notions ?
C'est peut-être pas obligatoirement nécessaire, mais ça, en tout cas, c'est bien utile.
Ça facilite.
Voilà.
Et puis, bien sûr, vous êtes prêtre.
Alors, je suis prêtre, et donc, entre autres choses, je suis vicaire, pas très loin d'ici, dans le groupement paroissial de Houdan, donc depuis 4 ans. Donc sur place pratiquement du vendredi soir au mardi soir.
Donc à Houdan, il y a plein de cercles bibliques.
Alors à Houdan, il y a d'abord une très belle chose qui était le vendredi soir, la lecture des textes du dimanche suivant. Donc on passe une heure j'introduis avec un petit groupe de 10-12 personnes, donc les textes du dimanche suivant, et tous les vendredis soirs. Et pour moi, c'est, assez intéressant aussi parce que j'essaie d'introduire les participants aux propres instruments de travail, donc une synopse, savoir lire un commentaire, ou même une concordance, travailler les textes par eux-mêmes et pas simplement recevoir un enseignement déjà.
Dire ce que les textes nous disent eux-mêmes, à partir des textes.
Voilà, la manière dont ils sont écrits, pourquoi est-ce que la lecture liturgique a supprimé tel ou tel verset. C'est pour ça qu'on travaille aussi à partir de, pas seulement à partir du missel, mais à partir de la Bible. Et puis le lien entre les lectures.
C'est-à-dire pourquoi elles ont été choisies comme ça. Parce que finalement, ce choix est relativement récent.
Le choix est relativement récent. Pour les dimanches du temps ordinaire, où il y avait surtout une lecture continue de l'Évangile selon saint Matthieu. Mais
on va faire un tour chez les autres.
Mais tandis que pour les temps privilégiés, donc l'Avent, le Carême et le temps pascal, on a pratiquement déjà les grandes lectures de la grande tradition liturgique.
Quelle proportion de textes sont utilisés dans la liturgie par rapport au corpus de la Bible ?
Je crois que la lecture des évangiles est à peu près complète, soit dans le lectionnaire dominical, soit dans le lectionnaire de semaine. Alors que, de fait, ce qui fait la lecture continue de la Bible, c'est plutôt l'office des lectures, c'est-à-dire qu'on appelait autrefois matine, où on a, de fait, sur 2 ans, une lecture des principaux chapitres de tous les livres de la Bible. Alors que dans le lectionnaire dominical, vous savez bien que le lectionnaire du dimanche, c'est le texte...
Quelques textes de la semaine, quand même, qui reviennent.
Voilà. Oui, mais parce que, justement, il y a une alternance dans les premières lectures de la semaine des textes des livres de l'Ancien Testament et des écrits du Nouveau Testament. Il y a une alternance un peu savante. Parce qu'on fait des lectures continues pendant la semaine, mais on lit, par exemple, tel livre de l'Ancien Testament, puis après, on prend une épître de Paul, puis après, on reprend un autre livre de l'Ancien Testament. Voilà. Tandis que le dimanche, il n'y a pas de lecture continue de l'Ancien Testament. La lecture est choisie en fonction de la lecture continue de l'Évangile.
On voit d'ailleurs que souvent, il y a les deux textes se répondent.
Voilà, les textes se répondent.
Voilà. Eh bien, merci de nous avoir éclairé sur ce point. Alors, vous venez à Dreux aussi pour un cours. Et ce que je trouve tout à fait intéressant, c'est que c'est un cours, non pas à destination du public chrétien s'il veut, oui, mais aussi de lecture culturelle de la Bible, si j'ose dire.
Voilà. C'est-à-dire que le cours s'intitule « Tradition religieuse ». Et il est entendu que, normalement, je ne traite pas uniquement de la tradition religieuse chrétienne. C'est pourquoi, donc les deux premières années, la première année, j'ai fait « Sagesse biblique et rencontre des cultures », c'est-à-dire en montrant comment les textes de sagesse de l'Égypte ancienne, de Mésopotamie et sumérien préparaient, plutôt, avaient un lot commun avec les textes bibliques de sagesse. Et puis, on a essayé de voir comment cela a été repris aussi dans le Nouveau Testament et dans la tradition chrétienne. Et puis, l'an dernier, c'était le thème, c'était l'homme souffrant. Alors, c'est pareil, on a vu donc l'homme souffrant dans quelques grands textes de la tradition, enfin, du Proche-Orient ancien, le livre de Job, mais le livre de Job...
Qui pose la question du tel, mal, là, tel qu'il, souffrant, voilà, c'est donc le mal.
Tel qu'il est vécu dans la Bible, et puis le livre de Job tel qu'il est reçu dans la tradition juive. Nous sommes attardés, par exemple, pour un livre apocryphe qui s'appelle le Testament de Job. Et puis...
Qui n'est pas dans la Bible, donc.
Qui n'est pas dans la Bible, donc, ce qu'on appelle un écrit intertestamentaire, oui, paratestamentaire. Mmh. Et puis, nous avons aussi lu les passages du Coran qui concernent Job, où Job est mentionné.
Ah, et Job est mentionné, c'est pas simplement Coran, parce que j'imagine qu'on mentionne le mal.
Mon serviteur Job.
Ah oui. Oui.
C'est-à-dire que la vision de Job dans le Coran est plus dépendante du testament de Job que du texte du livre de Job lui-même.
Voilà, alors cette année...
Et cette année, donc, c'est le croyant face à Dieu. C'est-à-dire non plus le souffrant, mais c'est-à-dire la manière dont l'homme s'adresse à Dieu. Or, dans la Bible et dans la tradition juive, nous avons donc un livre qui s'appelle le livre des louanges, hein, donc le livre des psaumes, et qui déploie la manière de s'adresser à Dieu sur toutes les possibilités donc du remerciement, de la supplication, de la contestation aussi. Voilà. Et ce livre est à la fois l'essentiel de la liturgie dans le judaïsme et de la liturgie dans l'Église chrétienne. Et donc c'est voir donc les psaumes dans la Bible, mais les psaumes tels qu'ils sont lus dans la tradition juive, dans l'office synagogal, hein, du Shabbat et des fêtes, mais aussi dans l'office quotidien, et puis l'office, le livre des psaumes tel qu'il est lu et pratiqué dans la liturgie chrétienne, c'est-à-dire aussi bien l'office que dans nos célébrations même dominicales. C'est pas seulement la transition entre la première lecture et la seconde lecture, mais bien des textes de la liturgie, donc chant d'entrée, offertoire, chant de communion,
oui, il y a un certain nombre de petits textes des anciens.
Sont des reprises de versets psalmiques, voilà.
Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai. Le Seigneur. Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur, son Dieu, lui qui a fait et le ciel et la terre. Je te chanterai, que je vivrai.
Eh bien, nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel avec le Père Daniel Doré et nous évoquons ce que représente la Bible et notamment l'Ancien Testament dans notre culture chrétienne. Tout à l'heure, vous évoquiez le fond commun, si j'ose dire, entre la sagesse égyptienne, la sagesse assyrienne, mésopotamienne, disons en gros, et puis ce qui apparaît dans la Bible. Et parce qu'effectivement, on voit très bien que Bon, il y a le code d'Hammurapi, puis il y a des lois. Bon, là, on voit bien quelques liens. Mais souvent, on a tendance quand même à détacher la Bible de ce monde. Or, vous, il me semble que dans ce que vous évoquiez, nous sommes insérés dans un monde.
Voilà. C'est-à-dire que sur les grandes questions de l'éducation, la vie, l'amour, la mort, la réussite, la vie en société, la vie familiale, la Bible ne s'exprime pas tellement différemment des peuples ambiants. Ce qui va la spécifier, c'est la manière dont elle va faire intervenir dans les anciens proverbes le Seigneur, la crainte du Seigneur ou la rétribution du Seigneur. Mais sur le fond même, il y a un terreau commun. Et c'est d'ailleurs assez intéressant de voir que, au retour de l'exil à Babylone, on s'aperçoit que les grands textes bibliques qui sont écrits après le retour de l'exil utilisent le langage commun reçu à Babylone. Quand on trouve des traces de mathématiques babyloniennes, par exemple, dans le chapitre 5 de la Genèse, lorsque la durée de vie des patriarches antédiluviens est très tributaire de l'arithmétique babylonienne en base 60, telle que les petits élèves d'école élémentaire l'apprennent.
À Persépolis, donc.
Voilà.
Bon, donc il y a ce fond commun et aussi il y a autre chose aussi que j'aimerais que vous éclairiez parce que souvent on oppose l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Dieu vengeur de l'Ancien Testament et ça va nous amener au sujet de la miséricorde, au Dieu amour du Nouveau Testament. En fait, c'est le même Dieu et puis on voit mal pourquoi d'un seul coup ça aurait changé aussi vite.
Alors, d'une part, c'est que quand on parle
d'Ancien
Testament, c'est quand même une littérature qui essaie de témoigner de plus d'un millénaire d'histoire. De plus d'un millénaire d'histoire qui s'inscrit dans les peuples de l'Antiquité, avec leurs institutions militaires, civiles et religieuses, qui ne sont plus tout à fait les nôtres. La question de la guerre sacrale, de l'anathème et quelques autres institutions dont les rites nous sont décrits dans la Bible ont de quoi, de fait, nous déconcerter. Et puis, deuxièmement, il y a bien aussi, dans la prédication des prophètes et dans l'évolution de la réflexion théologique des sages d'Israël, une perception plus fine du Dieu national, du Dieu d'Israël, et qui, justement, se révèle comme le Dieu de tendresse et de bonté, lent à la colère, plein d'amour et de miséricorde.
Vous avez évoqué un millénaire d'histoire, alors que l'écriture est quand même plus resserrée. L'écriture, elle s'est faite après l'exil.
Alors, l'écriture s'est faite après l'exil, mais elle entend témoigner d'une histoire qui commence avec Abraham. Vous savez, par exemple, la petite histoire du patriarche qui fait passer sa femme pour sa sœur. Bon.
On a l'impression d'ailleurs que ça vient plusieurs fois.
Ça revient chez Isaac. Oui. Et puis, dans la vie matrimoniale des grands personnages de l'Ancien Testament, on ne peut pas dire que ce soit la réciprocité de l'amour conjugal tel que le conçoit le Nouveau Testament et la théologie chrétienne qui soit première. Vous voyez, donc il y a bien ce que j'ai dit, un affinement, une évolution, la perception, finalement, d'exigences un petit peu plus précises.
Donc en fait, la Bible, c'est plutôt le dialogue d'une culture avec son Dieu et peu à peu, on affine le sentiment que l'on a de Dieu.
Je crois. Il y a de fait cette évolution qui... Mais justement, avec des sommets. Hein, avec des sommets, et puis, par exemple, comme la révélation de l'amour inconditionnel de Dieu dans le livre d'Osée, aussi bien sous la forme de l'amour conjugal dans les trois premiers chapitres que de l'amour paternel et filial au chapitre 11, sont des textes un petit peu indépassables.
Oui, par exemple, c'est vrai que quand on évoque les psaumes ou le cantique des cantiques, on a l'impression que ce sont des monuments de la littérature, y compris d'aujourd'hui.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Et ils sont reçus comme ça encore aujourd'hui.
Ils sont reçus comme ça, mais même le livre de Job ou le livre de Kohelet sont des monuments de la littérature universelle.
Oui, pour le mal, pour cette question.
Oui, et puis sur la manière dont plusieurs langages sont tenus ensemble. Quand on me dit « la Bible dit ceci », je dis « ah non, mais elle dit aussi ceci ». C'est-à-dire que c'est l'ensemble, c'est-à-dire le dialogue des intuitions théologiques et spirituelles qui nous permet justement de découvrir ce que Dieu attend de nous, ce Dieu avec qui nous sommes en relation et que nous voulons et que nous voulons honorer.
Alors, comme lorsque vous êtes venu à Dreux, c'était pour une conférence sur la miséricorde dans l'Ancien Testament, passons un peu à la miséricorde.
Voilà. Alors justement, ce soir-là, j'avais voulu dire une chose un peu essentielle, c'est de dire que la miséricorde n'est pas un attribut de Dieu parmi d'autres qui serait quelque chose de tout à fait accessoire. Lorsque, en bon bibliste, on prend une concordance pour voir l'emploi du mot « miséricorde » dans la Bible, on s'aperçoit qu'il n'est pas toujours accolé à Dieu. On fait appel à sa miséricorde dans les psaumes, on invoque sa miséricorde, mais ce qu'il est important de découvrir, c'est que c'est d'abord Dieu lui-même qui se révèle comme un Dieu miséricordieux. C'est-à-dire que si on ne situe pas cette révélation en fonction de la première révélation de Dieu. Vous savez que dans l'économie biblique, dans la manière dont la Bible est écrite, c'est bien la révélation au Sinaï, dans les 10 paroles, donc au chapitre 20 du livre de l'Exode, qui est le point de départ de la découverte de l'identité de Dieu dans l'histoire. Alors justement, en Exode 20, donc, après l'interdit des idoles, on a cette révélation qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la quatrième génération, mais qui fait grâce à des milliers de générations. Et cette révélation est justement reprise lorsque l'interdit de l'idolâtrie a été violé par le veau d'or, donc au chapitre 32 du livre de l'Exode. Et c'est au chapitre 34, justement, que le Seigneur, qui fait bienveillance et qui fait bienveillance, lent à la colère, plein d'amour et de miséricorde, qui visite et qui fait grâce à des milliers de générations pour ceux qui l'aiment et gardent ses commandements.
Oui, d'ailleurs, c'était ça qui est intéressant. Enfin, en tout cas, ça m'a intéressé parce que, vous savez, j'ai eu l'impression que là, on découvrait, c'est comme pour saint Paul. Saint Paul, c'est Marie... femmes, soyez soumises à vos maris, mais on oublie la suite. Et là, Dieu fait tomber la faute sur les enfants, mais la suite, c'était, mais par contre, fais grâce pour
ceux qui m'aiment et gardent mes commandements.
Et pour un temps...
Milliers de générations. Voilà. C'est sans commune mesure.
Sans commune mesure,
sans commune mesure, parce que les 3-4... Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette formulation d'Exode 34 a de fait... un certain nombre de reprises
on la retrouve tout le temps.
Dans le livre des psaumes, mais lorsque c'est repris dans les textes de la Torah, c'est-à-dire dans le livre des Nombres, à propos de la sanction du retour des explorateurs et de la manière dont Caleb et son clan sont mis à part et sont... On la promet justement d'entrer dans la terre qu'ils ont explorée.
Alors que les autres ont des doutes.
Alors que les autres, donc, la génération du désert n'entrera pas dans la terre de la promesse.
Alors c'est vrai qu'on se souvient, je ne sais pas, du serpent des reins. Enfin, on a l'impression justement d'un Dieu sévère. Et puis là, vous avez mis l'accent sur l'inversement.
L'inversement sur la manière dont les perspectives de grâce et de miséricorde sont toujours là, même, lorsque on s'attend vraiment à ce qu'il y ait une sanction, et une sanction bien ça, eh bien, tout d'un coup, le cas le plus spontané, ce qui me vient le plus spontanément à l'esprit, c'est la rétribution d'Akab après le meurtre de Nabo, donc au chapitre 21 du premier livre des Rois. Donc Akab se repent. Et le Seigneur, eh bien, lui aussi se repent. Il dit, ce n'est pas la génération d'Akab, c'est sur ses enfants que portera la rétribution. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de conversion de Dieu.
On a eu l'impression aussi que quelquefois, il y a un marchandage, en fait. Dieu se laisse attendrir par le marchandage. Enfin...
Alors, Dieu se laisse attendrir que nous, c'est ainsi que nous le lisons. Parce que nous lisons un peu spontanément le texte de manière un peu trop rapide. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que j'ai essayé de faire dans la dernière partie de la conférence sur ce magnifique livre de Jonas.
Ah si, je voudrais que vous en parlez, ça. Parce que
justement,
ça c'est vraiment une
histoire. Un livre curieux. Donc leur mal est monté jusqu'à moi, mais on ne dit pas quelle est la sanction. Et puis...
On envoie Jonas
et on lui dit, tu leur diras ce que je te dirai pour elle. Et on ne dit pas ce que c'est. Et puis on voit la traduction de Jonas. Encore 40 jours et la ville sera bouleversée. Mais sans aucune mention d'origine ni de provenance. Alors qu'habituellement, dans les livres prophétiques, on dit « Ainsi parle le Seigneur », parce que le Seigneur s'adressait à lui en disant « Tu leur diras ». Et je crois que dans la manière dont le texte est écrit, avec ses silences, ça nous laisse penser que Jonas... Un peu comme le bon prophète, avale le Saint-Esprit avec les plumes et puis prend sur son fond de ce qu'il a compris pour annoncer un châtiment. C'est-à-dire qu'il ne croit pas les Ninivites capables de conversion. Alors, bon, le texte est écrit de manière populaire, c'est-à-dire avec ses exagérations pour faire comprendre la conversion des Ninivites à quelque chose d'irréaliste, le décret du roi qui intervient alors que tout le monde s'est mis en état de conversion et de pénitence, c'est surréaliste. Mais en même temps, la réaction de Jonas est tout aussi surréaliste.
Oui, mais c'est intéressant parce que le roi là prend, alors il prend le train en marche d'une certaine manière.
Il prend le train en marche et il décrète alors le jeûne complet, y compris pour les animaux.
Oui, ça me paraissait.
Et alors on appelle ça le jeûne de Ninive aujourd'hui encore dans le Proche-Orient. J'ai entendu des étudiants de là-bas me dire mais mon père c'est le jeûne de Ninive, c'est là, on le pratique chez nous encore.
C'est-à-dire on met les animaux à la diète.
Voilà, oui, pendant 3 jours. Oui,
parce qu'il faut quand même leur donner à boire, j'imagine autrement c'est. Ça pose quand même quelques redoutables questions économiques, là.
Voilà.
Alors oui, justement, ce Dieu, lent à la colère et plein d'amour, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore, on est obligé de découvrir.
Parce que je crois que nous avons une vision. D'abord, je ne suis pas certain que dans notre monde occidental et dans notre monde francophone, nous soyons totalement libérés d'un Dieu rétributeur marqué un peu par les querelles qui ont empoisonné notre histoire donc, au XVIIe siècle, c'est-à-dire le jansénisme et d'autres courants théologiques. Et puis que c'est un
ça
peu...
Ça profitait à l'Église, ça profitait aussi à son pouvoir.
C'est un peu...
Je punis, je suis celle qui a le pouvoir et qui peut punir.
Alors,
il y a peut-être de ça aussi.
Oui,
mais
pas seulement à l'Église, mais à la société.
C'est-à-dire la société aussi, bien sûr.
Oui, oui. Mais justement, ce qu'on a... L'amour de Dieu, c'est une qui a, comment dirais-je, été des révolutions du XXe siècle, c'est bien à la fois l'expérience spirituelle et la révélation de Dieu par Thérèse de Lisieux.
Oui, alors...
Ah oui, mais non, mais il y a deux ou trois choses comme ça qui sont intervenues au début du XXe siècle et qui, spirituellement...
Oui, c'est vrai que la
personne. Et mondialement.
Oui, parce que c'est vrai que c'est reconnu partout.
Et mondialement, donc, nous ont remis un peu les pendules à l'heure concernant la révélation de Dieu.
C'est vrai que cette femme, de son Carmel, a pu modifier effectivement beaucoup de choses. Ça joue dans la manière d'appréhender la Bible.
Alors, aujourd'hui, ça permet de redécouvrir justement que le. Oui, moi j'ai fait uniquement la miséricorde dans l'Ancien Testament, et bien peu de choses, mais lorsqu'on parle de la miséricorde du Nouveau Testament, on est habitué à parler des paraboles de la miséricorde, mais là encore, la réalité, elle est tout entière. Hein. Vous voyez, dans la première épître de Pierre, hein, dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître. C'est-à-dire que c'est la mort et la résurrection de Jésus qui sont la manifestation dernière de la miséricorde du Père, mais non pas uniquement pour Jésus, mais pour nous. Puisque c'est là que nous sommes, hein, nous sommes renés, nous sommes devenus hein, donc une vie nouvelle, et ce qui est semé en nous, justement, c'est la miséricorde du Père qui agit en nos vies pour les autres.
Pour la dernière question, parce que là, je vais m'adresser aux biblistes qui se penchent sur les textes et qui travaillent les textes. En quoi, justement, c'est nécessaire de retravailler, de voir comment ça a été écrit, d'aller jusque l'origine des mots, c'est parce que c'est quelque chose qui nous a un peu désarçonné au moment de votre conférence.
Oui, mais parce que le vocabulaire sémitique, le vocabulaire grec et le vocabulaire de nos langues latines n'est pas tout à fait le même. C'est-à-dire que nous avons un vocabulaire abstrait.
Oui, ça
facilement.
C'est rationnel.
Alors que le monde sémitique a un vocabulaire concret. Lent à la colère, en hébreu, ça se dit long de narine.
D'accord.
Et se mettre en colère, c'est court de narine. C'est-à-dire on prend dans le nez. De fait, alors plein de tendresse et de pitié. Donc, plein de tendresse, c'est rahum. C'est
les entrailles. Vous évoquiez la maternité.
C'est les entrailles, c'est le sein maternel. Et puis, de pitié, donc hanan, c'est la grâce, c'est la faveur qui est faite. C'est-à-dire que vraiment la sentence de grâce. Mais justement, la sentence de grâce...
Donc vous dites, recourir à ces images très concrètes permet de voir quel est le...
Voilà, à voir que
l'attribut de
nous
Dieu...
Nous avons évidemment toujours recours à un langage anthropomorphique pour parler de Dieu, mais ce langage anthropomorphique, il est concret, et il dit beaucoup plus que ne dirait une définition abstraite. Hein. Donc, ne détourne pas ta face... je lève les yeux vers toi. Même la main de Dieu se posa sur moi. Enfin, on a, vous voyez,
donc toujours des expressions concrètes qui signifient
des expressions concrètes, corporelles, qui disent
l'attitude de Dieu vis-à-vis de l'homme.
Voilà.
En tout cas leur relation.
Leur relation, voilà.
Eh bien, le temps s'achève. Je vais vous dire merci d'être venu à Radio Grand Ciel pour nous parler de cette Bible que peut-être trop souvent on ignore. En tout cas, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Au revoir.
Et aux auditeurs, je dis bonne semaine à tous. Au revoir.